gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bienvenue dans la causerie sur Radio Canu, chers auditeurs, auditrices, auditoires.
Ok. Ok.
Pardon. Donc, sur le 102.2 ou sur radiocanu.org. Et ce soir, dans la causerie, nous avons autour de la table Fab.
Salut.
Stan.
Salut.
Clara à la technique, comme
Coucou.
Toujours. Pardon. Et voilà.
Et Jonathan, qui est dans un état mais merveilleux ce soir pour faire mais cette ouverture, voilà. On ne sait pas.
Non, mais je,
tu t'es perdu toi-même avec toi-même.
Non, mais je dirais que j'ai le trac ce soir. Voilà.
Ah, bah c'est bien, c'est bon signe, il paraît.
Voilà, je vais me détendre. Et pour me détendre, je vais vous dire où est-ce que vous pouvez nous écrire, hein, du coup. Donc, soit sur Gmail, la causeriecanu@gmail.com.
Ouais, tout attaché en minuscules.
Exactement, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur des blogs de Radio Canu.
Ouais, blogs.radiocanu.org/lacauserie. Ou alors, vous allez sur les blogs de Radio Canu, vous tapez ça dans votre moteur de recherche et vous cherchez la causerie, on est là.
Voilà, et puis bien sûr, notre réseau social.
Ouais, sur Facebook, on va le dire, on s'en fout.
Voilà.
Ils sont pas semblants ce soir. Moi, en parlant de ça, je voulais remercier vite fait les gens qui nous laissent des commentaires. Voilà, donc continuez, ça fait vachement plaisir. Envoyez-nous des messages, tout ça, ça fait super plaisir. Voilà.
Tout plein. Et ce soir, on débute cette causerie avec Stan qui va nous parler de...
e-sport.
Yeah.
That's in a game. Non, j'avais dit que je la ferais pas celle-là.
It's in a game.
Oui, bah pour ceux qui connaissent pas, c'est une pub, hein. Pardon. Mais à coule pas tout ça.
C'est un petit peu le slogan de Electronic Arts. Enfin,
c'est ça.
Avant, il y a longtemps. Il y a Jonathan qui... Non, ça se passe bien.
On va la perdre.
Vas-y.
C'est parfait. Bref, donc je voulais vous parler de e-sport ce soir. Donc dans e-sport, d'ailleurs, il y a sport. Et bah, j'en parlerai pas, parce que c'est un grand débat, en fait. Et je ne veux pas forcément rentrer là-dedans. Est-ce que le e-sport, c'est du sport? Est-ce que ça n'en est pas? Après tout, c'est du e-sport. Voilà. Le e-sport, d'ailleurs, enfin, on va quand même tout petit peu en parler. C'est plus souvent apparenté à des activités moins physiques, comme les échecs. Après, si vous avez déjà vu des très grands joueurs de StarCraft 2 jouer, c'est un peu plus physique que les échecs. C'est différent.
Juste rappeler donc, que le e-sport, c'est du sport autour des jeux vidéo.
C'est les sports dans les jeux vidéo.
Voilà.
C'est des gens qui s'affrontent les uns contre les autres avec une console ou un PC interposé. Très bien.
Tu voulais qu'on rebondisse là?
Non, ouais, des fois je crois qu'il y a des... Non, mais non, en fait, non, il y a pas
de personne. Ah non, là non.
Voilà. Donc, je vais un petit peu reprendre les débuts du e-sport, très rapidement. On considère que la première compétition de jeux vidéo, donc là c'est avant le début du e-sport quelque part, première compétition de jeux vidéo, le 19 octobre 1972.
C'était Pong?
Non, c'était sur Space War.
Ah bah, mince.
Dans un laboratoire de l'université de Stanford. Voilà. Ensuite, dans les années 80, il y a eu un très grand championnat aux États-Unis qui a rassemblé 10 000 participants sur Space Invader.
Ah ouais.
Ouais. 10 000 participants dans les années 80 sur Space Invader, c'est pas mal quand même. Il y a eu donc, bon, les compétitions entre joueurs, ça date pas d'hier dans les jeux vidéo. Il y en a eu énormément. Le premier vrai tournoi e-sport, il se déroule sur Quake en 97. C'est vraiment les débuts du e-sport comme on les connaît maintenant. Ça a énormément évolué depuis, forcément.
Alors Quake, vous rappelez que c'est un jeu de tir à la première personne.
Ouais, j'allais faire une énumération des jeux après, c'est ouais. Gentil.
Oh pardon, c'est comme moi. Je vais me coucher.
Non, mais n'hésite pas à intervenir, t'inquiète pas. Depuis, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu énormément d'événements, ça a énormément grossi. Les organisations sont installées, il y a des championnats du monde, il y a des associations, il y a des structures, il y a des contrats professionnels. Il y a plein de choses, il y a des commentateurs, il y a une vraie vie en fait autour de ça, parce qu'il y a des gens qui jouent, donc il y a des gens qui commentent, des gens qui jouent.
Il y a des ligues en fait, comme dans le football par exemple.
Alors c'est plus compliqué, il y a des ligues comme dans le football, mais en fait il y en a plusieurs qui se battent pour être la ligue principale.
Ouais, alors, c'est pas encore figé.
C'est pas encore vraiment défini, ah,
c'est
établi.
C'est comme dans le catch quoi.
Exactement, oh, c'est exactement le bon parallèle est là en fait, c'est comme dans le catch, il y a plein de ligues pour l'instant. Il y en a qui ont plus de renommée que d'autres, mais voilà, pour l'instant rien n'est complètement figé, ça change souvent et d'ailleurs ça se rachète aussi les ligues les unes entre les autres. Et donc dans tout ça, dans toute cette chose là, dans le e-sport, ce qui est génial aussi, c'est que vu pour bien montrer qu'il y a vraiment tout, il y a aussi de la drogue. C'est une drogue qui s'appelle l'Adderall, qui est utilisée pour augmenter les capacités d'attention, de concentration et d'apprentissage. Voilà, ils avaient eu beaucoup de débats. D'accord. Et c'est une vraie drogue en fait qui est vraiment en place.
Mais elle est en vente libre aux États-Unis, je crois, parce que...
sur prescription. Ah, en France, c'est complètement interdit.
D'accord.
Et aux États-Unis, sur prescription.
Parce que je crois que s'il y avait un truc de shooter avec ça, même pour bosser plus mieux, machin.
Oui, non, mais
tout,
c'est ouais. Je crois que c'est un dérivé des.
Bon, je sais. C'est une méthamphétamine, je crois.
Oui, voilà.
Ah, classe. Donc ils sont bien.
Oui,
à fond,
oui,
quoi.
Ils sont à fond. Quoi. Donc là, voilà, je vais vous parler très rapidement des jeux qui font le e-sport actuellement, le e-sport moderne. Donc on va parler de StarCraft 2, qui est la suite de StarCraft 1, un des plus grands jeux de e-sport qui a créé en partie même le e-sport en Corée. Donc c'est un RTS, donc c'est un jeu de stratégie en temps réel, real time strategy. Donc c'est deux joueurs qui s'affrontent l'un contre l'autre en créant puis en gérant des unités dans le but de détruire tous les bâtiments d'en face de l'adversaire. On a Counter Strike, c'est deux équipes de 5 personnes qui s'affrontent dans un FPS, donc un first personal shooter, donc un jeu de tir à la première personne. Nous avons des jeux, alors c'est un peu plus particulier, League of Legends et Dota 2, qui sont des MOBA. Alors MOBA, c'est Multiplayer Online Battle Arena, donc des batailles en arène, en ligne et multijoueur. C'est deux équipes de 5 joueurs qui s'affrontent, l'objectif de chaque équipe étant de détruire le bâtiment principal de l'équipe d'en face. Et chaque joueur contrôle un héros qui a des capacités, du stuff, enfin des armes pour combattre l'autre équipe, et aussi des unités qui se baladent sur la map, qui sont gérées par l'ordinateur, qu'on appelle des sbires. Je ne savais pas si tu allais le dire en fait.
Non, je te laisse faire.
Et on a aussi donc des jeux de combat type Street Fighter, Soul Calibur, etc. J'entrerai pas dans le détail. Et donc pour en revenir, Quake, qu'on en parlait tout à l'heure, c'est un jeu comme Counter-Strike en fait, avec des règles très différentes, parce que c'est pas du 5 contre 5, c'est beaucoup de 1 contre 1 Quake. Mais voilà, c'est un jeu de tir à la première personne. Ça a pris énormément d'ampleur le e-sport, ça a vraiment grossi au fil des ans et ça a pris des cash prizes. Donc les cash prizes, c'est l'argent qui a gagné en fait pour les meilleurs. On a des cash prizes, donc le plus gros cash prize, il a été de 20 millions d'euros en 2016.
C'est à celui qui gagne.
Alors c'était
à 20
les
4
équipes gagnantes, je crois, se répartissaient. Ah ouais. Voilà,
c'est énorme.
C'est énorme, ça commence à être vraiment gros. C'est peut-être les 8 meilleurs, je ne sais plus exactement. Donc c'est le Z International sur Dota 2.
Divisé par 4 ou par 8, ça fait beaucoup
ouais,
d'argent.
Et puis le
même.
Premier, il a gagné 11 millions, je crois, sur le tas quand même. 11 ouais. ou 12 millions. Donc ils sont à se répartir en 5-6, vu qu'on compte le capitaine, enfin le manager derrière, etc. Ça fait une belle somme. C'est une belle somme, voilà. Les plus grandes finales génèrent généralement entre 300 et 400 000 viewers, on appelle ça viewers, donc spectateurs en fait, simultanés. Donc ce qui est assez... hop, changement de feuille. ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il commence en fait à en faire quelque chose qui est un acteur économique qui commence à devenir intéressant. Il y a du cash prize, il y a de l'argent à gagner, il y a de l'argent investi donc, et il y a des gens qui regardent, donc forcément ça intéresse. Pour donner un petit peu quelques chiffres, le revenu estimé en France sur 2016, donc du e-sport, c'est un peu plus de 22 millions d'euros. Le marché européen lui pèse dans les 300 millions, on a environ 23 millions de fans en Europe, la plus grosse tranche étant sur les 25-34 ans.
Ouais, ce qui n'est pas illogique.
Bon, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est sur les 14-24, mais non en fait.
Non, parce que c'est plutôt sur ceux qui ont connu l'émergence de ces jeux qui le font perdurer après, quoi. C'est normal.
Il y a 77% d'hommes et 23% de femmes Ça, donc, c'est des chiffres d'une étude qui a été menée par PayPal et Superdata sur toute l'année 2016.
Donc dans les spectateurs ou dans les gens qui pratiquent ?
Dans les spectateurs.
Les spectateurs, d'accord.
Dans les spectateurs. Sur 2015, Twitch est une plateforme de diffusion en fait de justement de gens qui jouent. Il y a des gens qui viennent regarder des gens qui jouent et il n'y en a pas qu'un peu. Il y a beaucoup 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 de gens qui jouent et qui diffusent ça. Il y a énormément de gens qui regardent. Je me suis amusé à compter sur 2005 si je cumulais le top 4.
Sur 2005 ?
Sur 2015, excuse-moi, oui. Sur 2015. Si je cumulais le top 4 des jeux e-sport sur l'année, ça fait un peu plus de 2 milliards d'heures de visionnage. Donc on est sur quelque chose qui... Voilà.
C'est énorme.
Ouais. Il y a une très grosse médiatisation autour de ça, qui commence à prendre de l'ampleur en plus sur fin 2016, début 2017. Il y a les équipes de foot qui se sont mises à se dire « Hey, il y a e-sport, donc il y a sport, il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a de l'argent... » On va y mettre un peu notre nez, donc là les grands clubs, les plus petits clubs essayent d'investir là-dedans en recrutant des joueurs, en se payant des équipes qui sont pas que sur FIFA qui est le jeu de foot actuel par excellence. C'est pas que sur FIFA, ça va être sur League of Legends, vu que League of Legends est le number one actuel des jeux e-sport. Donc c'est sur plein de choses et forcément, ça, voilà, il y a toute la médiation qui est là et si les clubs de foot s'y mettent. D'ailleurs, pour la petite histoire, le Paris Saint-Germain a créé son équipe. Après, ils se sont mis dans ce qu'on appelle une gaming house, un endroit où s'entraînent les joueurs, en fait. Et donc, le Paris Saint-Germain, leur gaming house, elle est à Berlin. Ce que je trouve un petit peu stupide, mais bon, c'est pas grave.
Là, voilà. C'est bizarre. C'est pour vraiment couper les joueurs de...
Non, je pense parce que, enfin, dans la vraie histoire, je crois que c'est leur meilleur joueur qui s'appelle Yellowstar, vivait déjà là-bas et ils ont voulu lui faire plaisir en le laissant ne pas le faire déménager.
Oui, c'est encore plus prosaïque que je pense.
Voilà, il me semble que c'est vraiment ça. Il y a une grosse médiatisation et donc s'il y a les équipes de sport, il y a aussi tous les magazines sportifs qui s'y sont mis un petit peu, que ce soit l'équipe ou même Bein Sport, la chaîne télé. Maintenant, on va trouver du contenu e-sport à la télé ou sur Internet ou dans les magazines. Ça prend de la place, ça prend de l'ampleur.
C'était Game One, la première chaîne qui en a diffusé beaucoup, il me semble.
Alors, ils en ont diffusé très peu.
Ah ouais ?
Ils ont beaucoup diffusé de jeux vidéo.
Ouais, mais pas de e-sport.
Mais très peu de e-sport. Le e-sport, il y a eu quelques fois, il y a eu des compétitions de Counter-Strike, ce genre de choses, mais c'était, ça n'a jamais vraiment pris de l'ampleur à l'époque, en fait.
Il y a peut-être un problème de droit aussi, parce qu'il va peut-être falloir acquérir les droits auprès des ligues.
Ouais, il faut le droit. C'est pas que c'est auprès de la ligue et parfois auprès de l'éditeur du jeu.
Ah oui, donc ça doit coûter très très cher.
Qui a le besoin de gérer un petit peu la communauté qui gère sa chose, qui veut pas que ça parte n'importe comment. Donc il fait très attention à qui est-ce qu'il laisse le droit de diffuser le contenu. Parce que c'est très bien dans certains cas, ils veulent pas de propos diffamatoires ou n'importe quoi sur certaines choses. Ils veulent que ça respecte un certain cadre.
Et du coup, en fait, avec le passage sur Bein Sport, par exemple, on vise le grand public finalement.
On commence à ouvrir le e-sport, qui reste quelque chose de niche, parce qu'on en parlait revenus e-sport en France, 22 millions d'euros, c'est pas fou non plus. Mais on voit bien qu'il y a un potentiel.
Pour un sport, c'est pas grand-chose.
C'est à mettre en parallèle avec les salaires des joueurs de foot, par exemple, qui sont largement supérieurs ou
à mettre en parallèle.
Dans les d'autres sports, plus d'argent.
Exactement, beaucoup de sports qui génèrent beaucoup plus que ça. Et je dis pas beaucoup, c'est parce qu'il y a eu pendant un moment au niveau du e-sport un fantasme comme quoi ils étaient à générer des millions et des milliards, quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est important, négligeable.
On se croyait en Corée, peut-être un peu, alors que on n'a pas la même ampleur en France qu'en Corée.
Voilà, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Ouais. On trouve des joueurs qui deviennent pros, semi-pros, qui gagnent de l'argent, voire beaucoup d'argent, c'est leur métier maintenant, c'est plus une passion, ça devient vraiment un métier, on en parlait, quand on joue au même jeu, 8, 10, 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sans s'arrêter, c'est plus très marrant au bout d'un moment, mais c'est un métier. Et moi, je me suis posé la question à la fin de tout ça, à la place des femmes dans le e-sport. Parce que, voilà. Y a une mixité qui est quasi inexistante. Voilà, il y a très peu... Il y en a quand même des e-sportives, professionnelles ou semi-professionnelles. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça ne me choque pas. Ce n'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque vraiment, c'est comment... Voilà, qu'est-ce qu'on en dit d'elles ? Parce qu'il n'y en ait pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. On a aussi 23% des femmes qui regardent le e-sport, donc ça ne me choque pas qu'il y en ait moins. Mais elles sont tout le temps critiquées. Elles sont tout le temps attaquées sur leur physique. On ne regarde pas leur talent, on ne regarde pas leur capacité.
voir sur leurs conditions. Dans le type de commentaire, il l'a laissé gagner parce que c'est une femme.
Exactement. Ou... si jamais vous avez une femme qui est très très forte et qui arrive à battre quelqu'un d'autre, alors je prends l'exemple, là je pense à Kayane, qui est une des plus grandes représentantes du e-sport français sur la scène Evo, donc c'est la scène des jeux de combat. Une très grande championne sur le Soul Calibur et sur Street Fighter, qui a vraiment affronté les plus grands et qui, au niveau international, et qui, là on parle sur le mixte, donc c'est homme-femme, qui est vraiment un monstre en puissance, qui est, c'est incroyable ce qu'elle arrive à faire manette en main, c'est incroyable. Et à chaque fois qu'elle gagne, ou qu'elle gagnait, elle a mis des années avant qu'on la juge vraiment sur son talent, vraiment sur dire elle est très forte. Tout le temps c'était ah, elle est jolie. Ce qui n'est pas, on parle pas de jeu là dans ce cas-là. Là, si c'était un mec qui avait gagné à la place, on aurait juste dit oh là là, le coup qu'il vient de mettre là, il est extraordinaire.
Oui, on n'aurait pas dit il est beau gosse celui-là.
Il est beau gosse celui-là. Ah.
Alors ça, qu'il y en a des beaux gosses.
Ça m'avait fait penser à ton anecdote sur la femme qui faisait de la Formule 1.
Ouais, c'est ça. Là, c'est une japonaise qui était pilote de Formule 1 et qui en fait un jour s'est grimée. Parce qu'elle était considérée comme plutôt jolie, elle s'est grimée, elle a roulé et là tout le monde a regardé que ses performances. Vous voyez, on a oublié que c'était une femme. Comme quoi, l'apparence est mauvaise.
T'avais même dit, si mes souvenirs sont bons, elle est pas très jolie, c'est pour ça.
Oui, c'est ça. C'est que c'était allé même plus loin parce qu'après les commentateurs s'étaient retournés en disant, ouais, mais c'est normal qu'elle roule bien parce qu'elle est pas belle. Oui, c'est le truc. Ouais. Donc c'est encore une fois c'était une minorité, mais elle avait dit on avait quand même réussi à retrouver l'inverse de ce qu'elle vivait d'habitude. On disait là elle a gagné parce qu'on la laisse gagner parce qu'elle a des nichons en gros.
Voilà.
Et là c'était parce qu'elle était pas belle, que c'est normal qu'elle roule bien. Mais à partir du moment où c'est une femme, elle est dévaluée. Par contre, ça me fait rebondir sur une chose, c'est que je me dis que comme on a une grande championne de e-sport, ça va peut-être attirer des femmes à venir aussi jouer. Et dans le e-sport, c'est forcément mixte parce qu'il n'y a pas de différence. Enfin, il me semble pas qu'il y ait problème physique.
Alors non, il n'y a pas de problème physique. Mais par contre, il y a clairement tous les championnats ne sont pas autorisés aux femmes.
Oui, mais du coup, c'est pas très logique en fait.
Oui, c'est vrai parce que l'argument qu'on pourrait donner dans le sport, qui est que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes capacités, argument que je n'aime pas trop, mais bon, pourquoi pas. Là, ça n'a plus aucune valeur finalement. Pourquoi distinguer un sport féminin et un sport masculin, puisque a priori, la capacité de cliquer d'utiliser le clavier, oui, c'est une question d'entraînement.
Puis c'est pas testiculaire, ça n'est pas lié au testicule.
Oui, voilà,
donc...
c'est pas hormonal,
Non, mais voilà,
c'est une question que vous me posez, mais j'en ai aucune réponse.
Non, c'était pas une question, c'est que je me dis que finalement, c'est un des secteurs où. Parce qu'on risque d'avoir la même dérive que dans les échecs, où il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de mixité dans les échecs, et où finalement on a aujourd'hui toujours une ligue masculine et une ligue féminine, ce qui n'est pas logique, parce que pour jouer aux échecs, jusqu'à preuve du contraire, il faut son cerveau, quoi, le reste...
une des raisons, qui est malheureuse, qui est pourquoi...
Ouais, qui a avancé,
Non, ce n'est pas une raison avancée, c'est au final pourquoi on en arrive là maintenant, et pourquoi ça va être compliqué d'y revenir et d'arriver sur une vraie mixité, c'est que je vois beaucoup trop de structures qui engagent des équipes... féminine justement, absolument pas basée sur le talent.
Oui, c'est
basée uniquement sur le physique.
Sur le marketing.
Sur le marketing. Ouais. Et donc ça ne donne pas envie aux meilleurs de continuer à s'entraîner. Si elles ne sont même pas reconnues. Elles ne sont même pas prises dans les équipes. Donc ça n'a pas d'intérêt en fait.
Oui, donc c'est le côté patriarcal du e-sport qui ressent vachement là. Parce que du coup, on retombe dans les mêmes travers que la société où sois belle et tais-toi. Quoi.
Et puis quand on met une équipe féminine dans un jeu pour attirer finalement les spectateurs, on remet la femme à son rang d'objet.
Ouais, c'est ça. Hein,
et puis à un moment donné, ce n'est qu'un argument marketing de plus. Mmh. Donc finalement, on ne la prend pas au sérieux.
Non. Et alors, bien entendu, on enfonce des portes ouvertes là.
Ah bah
c'est
très bien
que ça se passe comme ça. Oui. C'est juste pour dire que, encore une fois, même dans ce domaine-là, qui est un domaine jeune, eh ben, on refait pareil. Mmh. Enfin, et ça change pas, quoi.
Oui, mais en plus, surtout, je le redis, c'est pas logique. Parce que, encore une fois, on parle de choses qui n'ont pas d'aptitude physique particulière. Alors, ne serait-ce que l'entraînement pour pouvoir faire des longues parties ou des choses comme ça. Mais enfin, bon, c'est du clic, quoi. C'est pas méchant. Je ne dénigre pas, mais c'est comme les joueurs d'échecs, ils font que déplacer des pions. C'est le cerveau qui fonctionne, c'est pas le bras, quoi.
Ça revient un petit peu à ma chronique que j'avais faite sur les femmes dans l'informatique.
Ouais.
En fait, à un moment, on a décidé que l'informatique, ce n'était pas pour les femmes, c'était pour les hommes. Mmh. Et donc, tout le marketing et tout pousse les hommes à aller dedans. et on empêche au maximum, enfin on ne dit pas aux femmes que c'est aussi pour elles. Donc forcément, moins d'entraînement, et ça fait la différence après au niveau actuellement.
Ou moins de capacité d'accès à des bons moyens d'entraînement.
Exactement.
Quoi,
et moins tu l'as, bah, tu ne peux pas être au même niveau. Ce n'est pas possible. Si t'as pas, tu ne peux pas t'entraîner pendant des heures et des heures. Avec, enfin voilà, donc forcément. Et je voulais juste finir, si j'ai le temps.
Oui, t'as le temps.
Wow. Je voulais juste finir pour parler d'une très très grande joueuse canadienne qui s'appelle Scarlett, qui joue à StarCraft 2, qui a la particularité d'être transgenre. Et en fait, il y avait eu un grand débat forcément à l'époque, vu que c'est beaucoup de petits cons, j'ai envie de les appeler comme ça, petits cons qui étaient là justement à dire non, mais c'est pas une femme, c'est un homme, donc c'est pour ça qu'elle gagne, toutes les insultes quotidiennes, etc. Et j'avais envie de remercier un petit peu sur le moment les casteurs francophones au moins, vu que je sais pas comment ça s'est passé ailleurs, qui ont totalement bloqué toute cette montée en puissance de petits cons qui arrivaient et qui ont directement dit non, arrêtez, c'est une femme, elle a décidé d'être une femme, donc le premier qui dit autre chose ou qui lui manque de respect sera banni et ne pourra plus jamais avoir des compétitions sur notre chaîne. Et donc je remercie au moins ce petit mouvement qui va de l'avant en fait.
Ouais, c'est bien.
Voilà. Et donc musique, vu que j'ai beaucoup dépassé. est de retour sur Radio Canu, sur La Causerie, 102.2. Et on vient d'écouter Fire and Fury, qui sort de la, je crois, donc c'est le soundtrack de StarCraft 2.
C'est ça.
Voilà.
Et donc, la suite donc... Oui, il voulait pas que celui s'en va maintenant.
Bonne soirée. C'est Jonathan qui prend la suite. Maintenant.
Mais oui, mais et puisqu'on parlait de joueuses transgenres, moi j'ai envie de parler de séries sur le fait d'être transgenre.
Alors, on va voir qu'on prépare les émissions et tout, qu'on essaie d'être logique. Hein.
Mais oui, mais en fait, alors auditeurs, auditrices, auditoires, nous faisons de gros efforts pour satisfaire votre curiosité intellectuelle. Et donc. Tout a commencé parce que je cherchais une série à regarder qui me ferait du bien, quelque chose qui me permettrait de me sentir plus en phase avec l'espèce humaine. Et je suis tombée sur une série qui s'appelle Transparent. Alors le jeu de mots est magnifique puisque ça parle de trans, donc soit de transgenre, de transsexualité et de parents. Donc la parentalité, la famille, le fait aussi de s'épauler et donc... J'ai décidé de parler de cette série, c'est génial. J'ai mangé les 3 saisons en une semaine, même pas.
Ah oui, ça fait un bon, bon rythme.
J'ai adoré. Et pourquoi j'ai adoré ? Bon, déjà parce que l'équipe de réalisation, les scénaristes et l'équipe d'acteurs est totalement impressionnante. Alors, dans les scénaristes, on a Jill Soloway, qui est la scénariste de Six Feet Under, et qui apparaît dans la série à un petit moment, dans un tout petit rôle, le rôle de Céleste, une assistante de professeur d'université, je vous laisserai la retrouver, mais qui a aussi, par cette série, en fait, décidé d'écrire une sorte d'auto-fiction, d'autobiographie fictive. Parce que son père a fait son coming out transgenre il y a quelque temps et, quelque part, s'est raconté un petit peu cette histoire à travers la série. Et notamment dans les auteurs, enfin dans les scénaristes qui reviennent régulièrement, il y a Ali Liebegott, je ne sais pas très bien le dire, mais qui est une auteure américaine assez marginale, qui prend part à de nombreuses luttes donc pour l'émancipation de la femme, qui est dans les mouvements LGBTQIA, je reviendrai sur ce cycle, et aussi pour la défense des animaux. Alors je vous rassure, hein, c'est pas une Brigitte Bardot en puissance, mais c'est quelqu'un qui considère qu'à un moment donné, tout être vivant a droit au respect et à la considération. Et donc déjà avec deux scénaristes pareils, moi j'étais déjà toute émoustillée à l'idée de découvrir cette série. Et donc grande surprise, la personne qui joue le rôle principal, donc le rôle de Maura Pfefferman, anciennement morte Pfefferman, c'est un certain acteur qui s'appelle Jeffrey Tambor. Alors, que dire de cet acteur ? Parce que lui aussi, il est impressionnant. C'est le père dans Arrested Development, qui est une série qui est très intéressante sur une famille qui monte et détruit une entreprise, enfin plus ou moins. Je vous laisserai découvrir aussi, c'est un petit peu compliqué à expliquer en 3 mots comme ça. Qui a aussi joué dans les 2 Hellboy et qui joue également, je l'ai découvert et j'ai trouvé ça génial, le légiste dans Kojak en 77, qui est une série policière qui vole des tours. Vraiment, si vous aimez les vieilles séries policières, c'est le moment d'y aller. Et donc, qui choisit généralement de jouer dans des scénarios qui ont une teneur politique au sens large. C'est-à-dire qui porte un message et qui porte un regard sur la société. Et les rôles qu'il interprète, en général, sont souvent très fins. Voilà, il met de la profondeur. C'est un très bon acteur qui vient de Broadway. C'est la référence aux États-Unis en termes d'acting théâtral, on va dire. Mais surtout, c'est quelqu'un d'intelligent et qui interprète très bien les rôles qu'on lui donne. Et donc, quand on lui a proposé d'interpréter Maura Pfefferman, comme quelqu'un d'intelligent, il s'est dit « Oulala, c'est complexe ». Et c'est assez complexe pour que, au cours des Emmy Awards où il a reçu une distinction, il a dit quelque chose qui m'a semblé très important. Il a dit « J'espère être le dernier acteur cisgenre à jouer une femme transgenre. Pourquoi ?» Non pas pour dire « On veut plus de, plus de scénarios sur les transgenres, mais au contraire, parce que Hollywood n'embauche pas assez de transgenres pour jouer les transgenres. Mmh. On préfère embaucher des acteurs cisgenres pour faire semblant d'eux, et puis quelque part c'est une manière de lisser aussi un peu les personnages, hein, de pas faire appel à leur vécu. Un faux ressenti finalement est toujours plus, on va dire, interprétable qu'un ressenti réel. Et donc, c'est quelqu'un qui a invité Hollywood à caster plus de personnes transgenres pour ces rôles-là. Hein. C'est pas non plus n'importe quoi. Enfin, je veux dire.
Et dans son discours, ou pour d'autres rôles.
Ou pour d'autres rôles.
Il a bien souligné le côté, il faut pas les cantonner non plus.
En l'idée. Fait, c'est ça. C'est que, voilà, quand j'avais commencé. Le truc, c'est que le but, c'est d'éviter la discrimination. Mmh. Et d'éviter la discrimination à une époque où, à un moment donné, c'est bon. On en parle, on commence à vraiment mettre le débat sur la table. Un débat qui est politique avant tout, hein, politique au sens de la vie de la cité et de la vie des citoyens.
La vie, quoi.
Voilà, la vie en général. Pour en revenir à cette série un petit peu plus... un peu plus sur cette série, je vais citer Télérama, pardon.
J'ai le droit de citer Télérama.
C'est un autre débat. Et Télérama fait une interview de Jill Soloway où elle décrit sa série en disant « C'est une série sur la famille, sur le sexe et sur l'inconditionnalité de notre amour pour les nôtres face à leur quête d'identité. Sa question centrale est « M'aimeras-tu encore quand je serai enfin moi-même ?» Alors quand dans « Par les nôtres », elle dit « Tous ceux que l'on choisit d'aimer et ce que l'on a toujours aimé parce qu'on a grandi avec. » Donc il y a cette notion de famille choisie et de famille génétique ou non choisie dans cette série qui est très présente, et du lien qui existe entre les uns et les autres. Et puis il y a le « M'aimeras-tu encore quand je serai enfin moi-même » qui est vraiment très beau, et moi c'est ça qui m'a plu. En fait, on arrive au cœur du truc, c'est qu'à un moment donné, je vais me risquer à parler pour tout le monde, à faire une généralité, mais je pense qu'on a tous besoin d'être aimé pour ce que l'on est. Encore faut-il savoir ce qui l'on est et ce que l'on est. Et quand on le découvre enfin, bah, ça peut choquer, ça peut perturber les gens autour de nous. Et c'est vrai, sans le dire de manière négative, hein, perturber, c'est pas forcément négatif, c'est juste qu'il y a un changement et il faut s'y adapter. Et dans cette question du changement de sexe, dans le fait de faire une transition, eh bien, il y a cette question de comment s'adapte la famille, comment s'adaptent les gens autour, qu'est-ce que finalement ça révèle.
Et comment on s'adapte soi-même.
Et comment on s'adapte soi-même à eux,
à
leur discours, et à soi-même également. Parce que la quête de soi, elle est interminable. Et quand on arrive à cette question dans la série, c'est aussi une façon de dire, bon... Est-ce qu'on est vraiment ce que l'on est? Est-ce que l'on est par rapport au regard des autres? Est-ce que finalement, ce que l'on donne à voir, c'est forcément nous? Enfin, ça a l'air comme ça de réflexion un petit peu facile, on va dire, philosophiquement. Mais ce sont de vraies, vraies grosses interrogations que tout le monde a, je pense. Et parce que là, j'ai Fred en bord, donc joue Maura Pfefferman. Elle ne se découvre pas d'un coup transgenre, elle l'a toujours été depuis l'enfance, et donc on revient, je vous laisserai découvrir la série, mais c'est vraiment très intéressant de voir que ce n'est pas quelque chose qui se décide.
On peut rappeler que c'est issu d'une histoire vraie la première saison en tout cas.
Et dans tous les cas, c'est Jill Soloway qui raconte son histoire. Donc Jill s'identifie à, donc pour les personnages, à Ali Pfefferman, donc la cadette de la fratrie, et identifie directement sa grande sœur, hein, Faith, à Sarah, donc qui est la grande sœur dans cette série. Et elle explique dans une interview, dont je mettrai le lien sur Radio Canu, qu'elle s'identifie totalement à ces deux personnages et qu'ils ont été créés par rapport à ça. Alors, qui joue Alice, et pour le principe, hein, je vous donne le nom des acteurs qui compose la famille génétique, on va dire, de Maura Pfefferman, parce qu'il y a moult très très bons acteurs, notamment l'actrice qui joue Shay, mais on y reviendra, qui est une actrice transgenre magnifique. Enfin, bon, on y reviendra. Mais donc Gabby Hoffman, qui joue Aline, donc la cadette, Amy Landecker, qui joue Sarah, Jay Duplass, qui joue Josh, donc l'enfant du milieu, le seul garçon, et Judith Light, qui joue Shelly, la femme de Maura, enfin l'ex-femme de Maura.
Pour ceux qui se souviennent de Madame et Servie, c'était Madame.
Exactement.
Voilà. Incroyable.
Oui.
Et une bonne culture série, faut pas croire.
Non, mais c'est, elle est reconnaissable.
Non, mais c'est une super actrice parce qu'on elle est très méprisée. Elle a été longtemps méprisée à Hollywood à cause de Madame est servie. Et c'est une excellente actrice, vraiment.
C'est une très bonne actrice. Elle a encore une fois, pour revenir à ce que tu disais, Stan, elle a le défaut de sa plastique. On va dire qu'elle est très, c'est une femme qui est très belle, qui correspond à des canons, et on a souvent, critiquer ça en mettant en avant finalement son physique plutôt que son talent. Mais c'est, voilà, je vous laisse découvrir la série parce que vraiment c'est hallucinant.
Et tu disais donc qu'il y a une autre actrice qui est là
et donc voilà, qui joue Shia, donc qui s'appelle, alors j'ai fait l'erreur de pas le noter parce que j'ai fait une sacrée recherche sur elle. Il faut savoir que vous ne trouverez aucune biographie en fait de cette personne. Oh là là, je le mettrai sur le blog aussi. Je cherche en fait dans mes notes, mais j'étais sûre de l'avoir noté et je ne l'ai pas noté. Mais cette Shea en fait est une femme magnifique et un personnage qui au fur et à mesure des saisons va prendre un petit peu plus d'importance dans la série. Et je sais pas, elle m'a plu. On va dire que c'est un petit coup de foudre, de voir ce personnage. C'est, attention, hein, je ne connais pas l'actrice, je ne sais pas ce qui, enfin, je sais très peu de choses sur elle puisqu'il y a très peu de biographies la concernant, voilà, d'informations. Mais sa prestation dans cette série m'a complètement émue. Et donc, je vais vous. Alors oui, il y a aussi une guest, hein, qui est très connue.
Avant, j'ai le nom. Trace Lizette.
Ah oui, c'est Trace Lizette. Exactement.
Oui, merci Google.
Eh bien, merci Fab.
De rien. Mais je voulais qu'on le donne aux auditrices et auditeurs.
Mais tout à fait, mais totalement. Et du coup, Trace Lizette, actrice qui est transgenre. Et il y a très très peu d'informations sur sa vie avant sa transformation. Et je comprends pourquoi, parce qu'à un moment donné, elle l'est. Maintenant, pas besoin de voir ce qu'elle était avant. Et petite apparition dans cette série intéressante, et d'ailleurs la façon dont elle apparaît est très intéressante et je vous laisserai découvrir encore, c'est Caitlyn Jenner, qui est la personne la plus transgenre la plus célèbre aux États-Unis puisque son émission Call Me Caitlyn.
Alors. Ex-aequo avec Laverne Cox, mais
oui,
ça c'est un avis
personnel. Oui, mais Laverne Cox n'a pas mis en scène sa transformation.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
Voilà, Caitlyn Jenner en a fait une émission. Alors, c'est pas le débat de ce que je pense de Caitlyn. Hein. Je trouve que c'est bien finalement que toutes les luttes convergent. Et d'ailleurs, je reviens sur ce cycle LGBTQIA. Et c'est bien finalement qu'on rajoute des lettres, hein, au fur et à mesure, qui veut dire lesbienne, gay, bisexuelle, transgender, queer, intersexe et asexuelle, qui rappelle l'importance de la solidarité et de la convergence des luttes dans ce genre de choses. Parce qu'à un moment donné, pourquoi on lutte dans ces cas-là? Juste pour la reconnaissance et le respect des individus. C'est ça en réalité le vrai combat. C'est pas je suis homo, je suis pas homo, je suis transgenre, je ne le suis pas. La vraie question, c'est respectez-moi pour ce que je suis. Point.
C'est le fameux glissement que je trouve plutôt passionnant entre l'identité et l'individualité, et je préfère que les gens soient des individus plutôt que des identités, personnellement.
Et je te rejoins tellement.
Voilà, non, mais c'était parce que c'est un débat en ce moment, beaucoup dans pas mal de milieux, de dire l'identité c'est très important, et d'autres disent non, c'est l'individualité, l'individu en fait, finalement, l'individualité pas égoïste, hein, c'est l'individu. Et je trouve que c'est bien que même dans des séries ou dans des films, il y a cette interrogation qui se pose parce qu'effectivement on n'est pas que trans, on n'est pas que homo,
exactement.
On n'est pas que anarchiste, on n'est pas que communiste, on n'est pas que socialiste, on est plein de choses dans la vie et du coup c'est bien de passer de cette notion d'identité qui enferme finalement souvent à l'individualité qui a tendance à ouvrir à plein d'aspects possibles.
À plein d'identités. Et c'est, en effet, c'est dommage de se cantonner à une image simple.
Et puis je voulais juste dire, demander deux choses. Vas-y. Où on trouve cette série? Parce que, c'est bien d'en parler, mais moi, je ne sais pas où elle passe.
Alors, j'y viens. Alors, pour ceux qui ont envie de...
De payer, tu veux dire?
De payer, on va dire. Vous pouvez aller sur Amazon, mais c'est pas très très cher.
Non, c'est hein, Amazon Prime.
Amazon
c'est
Prime.
Chose comme 40 euros à l'année.
Voilà. Et
après,
c'est...
ne commandez pas sur Amazon, ça c'est un autre débat.
Ouais. Voilà. Et c'est. Donc finalement, c'est eux qui produisent, enfin, qui diffusent la série. Ouais. Donc ils ont les droits dessus.
Sinon, vous... elle se balade sur le net.
Voilà,
je
c'est une série qui se trouve très facilement sur tous les sites de streaming.
Non, c'est, voilà. C'est mal ça.
C'est très très mal. Il y a des artistes, il faut qu'ils mangent. Hein.
Mais on peut la trouver.
Mais on peut la trouver très important. Rapidement sur le net. Par contre, elle n'est pas encore diffusée à la télé française.
Ça, c'est un peu dommage.
Ça ne devrait pas tarder.
C'est voilà, c'est en train de se faire.
Et la, ma deuxième question, oui. C'est du coup, donc, on a, c'est bien qu'une, enfin, pour moi, une série qui aborde la transition, finalement, d'une personne. Je voulais juste savoir, c'est au début de la série, du coup, tu disais, elle l'a été toute sa vie. Ça veut dire qu'en fait, le point de départ de la série, c'est ça, c'est le moment où la personne dit, bah voilà, là, je fais une transition.
Exactement.
Et je m'appelle, tu disais Moira, ça ?
Moira, pardon. Mais c'est le coming out.
D'accord.
Qui
et ça, c'est le point de départ de la série. D'accord.
Un coming out qui se fait d'ailleurs sur 3 épisodes, parce que c'est jamais facile de sortir du placard, comme
ouais,
on
clairement,
dit.
Ouais.
Et donc, ça, déjà, ça, c'est très bien fait. Et puis, je vais finir rapidement, mais moi, j'aimerais dire ce que cette série a abordé pour moi en termes de réflexion, donc sur ces 3 saisons. Bon, déjà la transsexualité, le fait d'être en genre, la transition, le changement de sexe ou non.
Ouais,
parce qu'on n'est pas obligé d'être transsexuel quand on est transgenre. Voilà, ouais. C'est une réalité, c'est quelque chose qu'on dit peu. Il y a aussi l'incompréhension et les amalgames qui sont traités avec une finesse. Quand une femme dit, eh bien voilà, je change de condition, ce n'est pas tout à fait la même chose que de changer de sexe. Mmh. Donc, il y a des amalgames comme ça qui sont très, très finement traités. J'ai trouvé que c'était... voilà. Il y a aussi d'autres problématiques, notamment sur la sexualité, hein, donc sur l'homosexualité, l'hétérosexualité, la bisexualité, la pansexualité et le fait surtout de ne pas être obligé de se cantonner à une sexualité.
C'est ça.
Et il y a la recherche de soi, la vision de soi, mais la recherche de l'affection et du soutien d'autrui. Et par quoi passe cette recherche d'affection ? Et en effet, elle peut passer par la sexualité, mais elle peut aussi passer par un développement artistique, par les rapports qui sont assez mêlés entre toutes ces personnes qui sont parfois un peu ambiguës. Et donc, ça amène forcément aux difficultés aussi qui vont avec la recherche de soi, que ce soit des difficultés financières, des difficultés médicales, des difficultés sociales.
Psychologique
également. La place des individus dans la famille, que ce soit le rôle finalement induit par l'intériorisation de comportements sociaux attendus ou leur destruction. Il y a un très joli passage à un moment donné où l'une des actrices se dispute avec sa copine parce qu'elle lui dit « parce que je suis homosexuelle, je dois bousculer les règles du couple » et sa copine lui dit « non, moi c'est pas ce que je veux ». Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que finalement,
Il n'y a pas d'obligation
et c'est pas parce que finalement on a une sexualité qui est considérée comme
hors norme
ou voilà ou légèrement marginale que on doit avoir un comportement qui l'est aussi. Mince, encore une fois, je reviens à ce que tu disais, nous sommes des individus avant d'être des identités, avant d'être une caricature de soi-même. Et c'est ça qui est beau dans cette série, c'est qu'il n'y a pas de caricature. Et comme je le disais, il y a aussi la question de la famille choisie, quelle place dans cette famille choisie, et quelle place dans la famille génétique, ou la famille non choisie, entre grands guillemets. Et voilà, c'est une série qui fait du bien, parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a de la finesse, parce que c'est plein de justesse, il n'y a pas de pathos. C'est pas quelque chose qui vous fait pleurer sous les chaumières, juste pour vous faire chialer, quoi. C'est quelque chose qui amène à réfléchir profondément et sur soi, sur sa propre identité, sur ce qu'on a envie d'être et sur ce qu'on est, au fond. Et finalement, elle pousse à devenir soi-même, qui est le combat actuel, qui est visible à travers les luttes LGBTIQA, etc. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu mélangé les lettres. Mais qui est un combat quotidien, qu'on mène tous de la naissance à la mort, c'est s'aimer finalement, comme on est, et être aimé pour ce qu'on est. Voilà, je...
Ça c'était une super conclusion, et j'ai super envie de voir la série.
C'est bien rendu.
mais c'est vraiment la série qui fait du bien, quoi.
Donc c'est transparente la série, transparent.
Et puis, pour vous accompagner, après cette conclusion, une petite musique sympathique. Et donc, rebonsoir dans la causerie sur Radio Canu 102.2, radiocanu.org. Et vous venez d'écouter donc le thème principal, le générique de la série Transparent par Dustin O'Hallorhan. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais j'ai essayé.
S'il écoute, il nous corrigera.
Il nous corrigera. Et donc, Fab, tu voulais nous parler d'un sujet...
Que j'espère pas explosif.
Là, ouais. J'espère aussi.
Non, en fait, je vais faire pas très long, mais c'était juste pour rappeler aux gens qu'on vit dans une fausse démocratie par rapport au nucléaire en France et que c'est pas une grande nouveauté qu'on nous a imposé cette technologie, en grande partie parce que la France voulait se doter de la bombe atomique et que donc du coup il fallait des centrales nucléaires pour produire le plutonium. Je refais l'historique très rapidement. C'est une idéologie partagée à l'époque malheureusement des gaullistes aux communistes hein, et que tout le monde était content qu'on fasse du nucléaire en France. Le problème c'est que le nucléaire ça vieillit et qu'aujourd'hui on arrive avec des centrales qui commencent à avoir 40 et bientôt 50 ans pour certaines, enfin qui vont vers leur 40 et plus, et que ben au départ elles étaient pas trop prévu pour durer aussi longtemps et du coup ben il y a des décisions à prendre et c'est des décisions politiques importantes à prendre de savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à rester dans l'énergie nucléaire ou est-ce qu'on en sort. Alors la problématique dont je voulais parler, c'est la façon dont EDF hein, qui est quand même le principal possesseur de centrales nucléaires en France, 56 réacteurs, 58 si on compte en construction. Bah en fait, EDF, si vous avez regardé déjà votre facture, vous avez en fait une part qui est censée être mise de côté pour le démantèlement futur des centrales nucléaires. Donc c'est une part, ça fait entre 1 et 3% de la facture d'électricité, qui est censée être mise de côté par EDF pour ça. Et ben là, il y a une décision qui vient d'être prise, c'était de fermer Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire de France. Hein. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle est vieille. La deuxième, c'est parce que l'Agence de sûreté nucléaire dit qu'il serait peut-être temps de la fermer. Elle ressemble à une cocotte minute rouillée. Et la troisième, c'est la pression de la Belgique et de l'Allemagne, hein, qui sont juste à côté de Fessenheim et qui disent nous, franchement, ça nous fait pas trop rire d'avoir ce truc-là au bord du Rhin, là, enfin, pas très loin du Rhin.
Parce que finalement, une centrale qui est mal entretenue ou qui est vieille, c'est une bombe nucléaire à retardement. Bah,
on a vu Fukushima. On sait que quand une centrale explose ou Tchernobyl, quand il y a un problème sur une centrale, bah ça touche des kilomètres carrés à la ronde et que ça fait des morts et que ça dure longtemps.
Et même un problème mineur. Oui. Même dans un cas quand c'est énorme, bon bah c'est gravissime, mais même un problème mineur sur une centrale nucléaire, ça devient tout de suite catastrophique.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on parle quand même d'une énergie qui potentiellement peut contaminer des sols ou contaminer des terrains sur des milliers d'années. Et donc voilà, donc il y a une pression, donc décision de fermer Fessenheim. Donc là, on peut se dire, tiens, ils vont prendre sur le fameux fonds qui nous taxe tous les mois depuis des années. Bah, pas du tout. Alors, EDF, ils sont très, très doués. Ils ont dit, ah non, ce fonds-là, en fait, on l'utilise que quand c'est nous, EDF, qui décidons de fermer une centrale. Ouais, elle est bonne. Et là, c'est pas nous, c'est le gouvernement qui dit on ferme Fessenheim. Alors moi, je te le dis, si tu me donnes pas des sous, gouvernement, je ferme pas ma centrale. Oui, ça s'appelle... du chantage, voilà.
Voire de la prise d'otage.
Ouais, quasiment, hein, parce qu'en gros, c'est une façon de dire, voilà. Donc, ils sont allés taper à la porte du gouvernement, ils ont dit, dis donc, tu veux fermer ma centrale, d'accord, mais tu me dédommages, hein. Ouais, comme ça, hein, vraiment façon mafieux, à 3 balles, voilà. Et le gouvernement, il a dit d'accord.
Oui, ça a marché.
C'est cool, ça
a marché à la fin.
Ce qui est plus dingue, c'est ça. Et donc, ils ont lâché plus de 400 millions d'euros de dédommagement. Donc, faisons un petit calcul. Fessenheim, c'est deux réacteurs. Hein, donc, deux réacteurs, 400 millions d'euros. Il y en a 58 en France. Hein, je vous laisserai faire le calcul. 200 millions par réacteur. Et vous voyez ce que va nous coûter le fait de fermer des centrales nucléaires alors que EDF met soi-disant de l'argent depuis des années sur votre facture pour ça.
Parce que là, forcément... Ça a tellement bien marché que je vois pas pourquoi EDF
va
démanteler maintenant ces centrales. Elles ont juste à dire bah vas-y, choisis et tu nous dis laquelle tu veux qu'on enlève, mais donne-leur.
Mais ça peut être pire que ça, c'est-à-dire que EDF n'a pas les mêmes critères que l'État.
Voilà, c'est ce que j'allais demander.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'ASN qui vérifie le nucléaire, c'est l'Agence de sûreté nucléaire qui est indépendante théoriquement et qui dit bah là ça va ou là ça va pas. Donc eux, ils donnent des rapports à l'État qui dit voilà, et ils donnent des rapports à EDF en disant tu peux plus exploiter ce réacteur parce que j'ai trouvé tel et tel problème et que ça peut être potentiellement grave. Le problème, c'est qui prend la décision de fermer un réacteur. En fait, ça joue juste là-dessus. Or, EDF, à chaque fois, dit « Vous inquiétez pas, ça passe. Je mets deux bouts de scotch et un bout de ruban et on peut relancer le réacteur. » De l'autre côté, l'ASN dit « Oula, là, il faut un peu plus qu'un bout de scotch et du ruban. » Mais alors, du coup, l'État, qui est censé protéger ses concitoyens, il est censé quand même pas dire « Oh ben ouais, c'est cool, mets trois bouts de scotch et on redémarre. » Non, il va dire « Elle est un peu vieille, ta centrale, là, va falloir la fermer. » Sauf que quand il va prononcer cette phrase-là, EDF pourra dire « Ah ben attendez, c'est pas moi qui ai décidé de changer fermer la centrale, c'est vous. Donc on recommence comme pour Fessenheim. Et donc, on paye pas le démantèlement et la fermeture de la centrale. C'est beau hein, quand même.
Mais moi j'ai une vraie, enfin j'ai deux questions du coup. Déjà, une centrale nucléaire, ça se délocalise pas sur ses petites pattes comme ça. Non. Donc on peut foutre la pression un petit peu à EDF en disant, écoute, elles sont sur mon sol là.
Ouais.
Et à un moment donné, il n'est pas question que tu tues les gens qui.
Enfin, parce alors
que...
le chantage à l'emploi, en fait, c'est un peu bizarre parce que en réalité, quand vous fermez une centrale, il y a 30 ans de démantèlement derrière.
D'accord.
Il faut 30 ans pour démonter une centrale. Donc l'emploi, il est quasiment garanti sur 30 ans. Je veux dire, voilà, les gens qui travaillent aujourd'hui à Fessenheim, je fais un petit coucou aux syndicalistes qui ont fait grève pour leur dire, les copains, on se calme, voilà, parce que si on ferme une centrale là aujourd'hui, il y a 30 ans de boulot derrière, le temps de l'arrêter, le temps de... D'abord, il faut savoir qu'un réacteur nucléaire, il faut le refroidir. Et déjà, rien que le temps de refroidir un réacteur nucléaire, vous en avez pour plusieurs années. Donc ça va pas se faire en trois jours, voilà, donc il y a du travail. Le chantage à l'emploi, c'est un peu du foutage de gueule. Non, en fait, le vrai problème qu'a EDF aujourd'hui, c'est que EDF, c'est une société multinationale, aujourd'hui, c'est plus une société d'État, et qu'elle vend des centrales à l'étranger. Et que c'est pour son image qu'elle a un problème.
D'accord.
C'est-à-dire que quand un État, l'État qui avait le plus de centrales nucléaires au kilomètre carré, qui est la France, commence à dire on ferme des centrales, c'est plus compliqué de vendre ses centrales à l'étranger. Et le vrai problème d'EDF, il est là. Donc il joue là-dessus en disant ah bah là, vous tuez notre exportation, donc faut nous dédommager. Et c'est totalement pourri parce qu'en fait, un État peut tout à fait, enfin même des citoyens, d'ailleurs je dis l'État depuis tout à l'heure parce que c'est l'État qui dédommage, mais les citoyens peuvent décider. Concrètement, les gens qui habitent à côté peuvent dire il y en a marre, on en a marre de vivre à côté d'une centrale nucléaire. Sauf que bah, on a toujours cette ambiguïté de dire vous faites du mal au business, quoi, et on est dans une société capitaliste. Donc forcément, c'est là-dessus que se base EDF pour toucher des sous. Mais c'est un sacré jackpot parce que imaginons un petit peu ce qui peut se produire. C'est je laisse vieillir une centrale. Quand elle arrive à peu près aux limites de la limite, la SN commence à dire ça va pas du tout. Et là, l'État dit bah, on est obligé de fermer parce qu'on met en danger des milliers de personnes, voire des millions de personnes. Et en fait, bah, l'État se retrouve coincé. C'est-à-dire, c'est comme tu parlais de chantage, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bah, c'est soit tu me donnes du fric, soit ma centrale, je la laisse de toute façon partir à volo et tu te démerderas pour parler de ça à des concitoyens. Quoi. Parce qu'ils en ont un peu rien à faire, il ne faut pas non plus se mentir. Quoi. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais il y a leur image quand même à l'étranger, vous savez, machin. Ouais, sauf que juste comme ça, TEPCO n'a pas fermé hein, au Japon. Pourtant, TEPCO, c'est Fukushima. Quoi. Et je veux dire, TEPCO, ça existe encore et c'est toujours debout. Parce que finalement, fournir de l'électricité, il y en a besoin. Donc, voilà.
Il y a un côté, une société qui arrive à reconnaître que ça, c'est arrivé un peu en fin de vie. Je m'en occupe de le démanteler, c'est une très bonne pub aussi.
Oui, oui, c'est ça. Mais sauf qu'ils veulent du dédommagement, quoi. Et c'est le truc, c'est ça, c'est de ne pas payer. Le but d'EDF, c'est de ne pas payer, quoi.
Mais du coup, là encore une autre question. À un moment donné, est-ce qu'on peut pas, il n'y a pas un moyen légal de leur dire, oh, vous arrêtez de faire, enfin, de risquer. Parce que
le
risque,
légal,
il est
non.
énorme.
Et encore,
donc,
je le redis.
Il y a peut-être un truc au niveau de la santé publique ou ce genre de choses qu'on peut faire.
Et ben, non, je le redis, parce que nous ne sommes pas en démocratie par rapport au nucléaire et qu'on nous a imposé ce choix. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait pu y avoir des moyens légaux si on avait été consultés. Sauf qu'on ne l'a jamais été. Si on remettait sur la table le fait de savoir si oui ou non c'est une bonne idée, on ne le fait jamais. Et en fait, les politiques, globalement, sont tous d'accord avec l'idée que la France doit garder le nucléaire. Donc en fait, on n'est pas en vraie démocratie là-dessus, parce que c'est une non, vous savez, c'est un non-débat. Ça fait partie des débats qu'on ne pose jamais. Et quand quelqu'un vient le poser, on lui dit que c'est un extrémiste. Ça, à la télé, c'est tout le temps ça. Quand quelqu'un vous dit qu'il faudra sortir du nucléaire, on lui dit ah, extrémiste. Ben non, c'est juste que c'est une logique. D'ailleurs, il y a une logique toute bête. Hein, c'est que le nucléaire, ça marche sur l'uranium. Que l'uranium, ça s'extrait majoritairement en dehors de la France, hein, il n'y en a pas en France, donc au Niger en particulier, ou dans certaines régions très hospitalières de la Russie et des pays satellites, comme on dit. Voilà. Et le vrai problème, c'est qu'en fait, l'uranium, c'est pas sans fin. C'est comme le pétrole, il y a un jour, on n'aura plus d'uranium. Donc, il faudra bien qu'on se pose la question de sortir du nucléaire un jour, de toute façon. Et c'est drôle, parce que même le fait de dire ça, aujourd'hui, on est vu comme hérétique. On dit, bah non, bah pas si, c'est juste de la logique. Et ces débats-là n'ont pas lieu. Et ils sont toujours polarisés de façon assez étrange. Moi, je voulais juste vous envoyer quand même sur un truc, c'est chez Negawatt, qui ne sont pas des fervents anti-nucléaires à donf. Non, c'est des gens qui vous expliquent comment en 30 ans, on peut sortir du nucléaire et avoir le même degré de couverture électrique pour la France, sans passer par une énergie qui potentiellement pourrait faire des milliers, voire des millions de morts.
Voilà. Et moi, j'avais une question à te poser. Juste, ça a l'air de gêner personne, finalement, de dépenser 400 millions sur l'argent public pour démanteler...
Oui, ça aussi, c'est une bonne question.
Voilà, les centrales de Fessenheim, ouais. Mais bizarrement, combien on donne à l'aide d'urgence
et... Ouais, c'était le débat, ce truc qu'on avait soulevé pendant la prépa, c'est qu'il y a des gens qui nous disent, oui, 500 millions pour l'aide médicale d'urgence pour les gens qui sont migrants ou qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale, c'est énorme, c'est dégueulasse, ça fait un trou dans le budget de l'État. Bon là, j'ai entendu personne gueuler alors que c'est 411 millions qui ne devraient pas exister vu qu'il y a déjà de l'argent mis de côté par EDF. Exactement. Pour le démantèlement. Et là, personne ne dit rien. Donc on voit bien que finalement, en France, on préfère les centrales aux humains et c'est un vrai problème quand même.
J'avoue.
Musique. De retour sur le 102.2 à la Causerie Radio Canu. Eh bien, c'était le Ville Juif Underground. Voilà, c'est un petit groupe que j'aime bien et ça s'appelle Since Everything Changes et c'est vraiment pas mal. Écoutez le Ville Juif Underground. Oui, ils ont un vrai nom bizarre.
C'est très bizarre comme
oui,
nom.
Eh bien, c'est vachement bien. Voilà. Ils ont une chaîne YouTube pour ceux qui aiment bien les YouTubeurs.
Ville Juif parce qu'ils viennent de Ville Juif en région parisienne.
Je vous laisse découvrir. Bah oui, mais je vous laisse découvrir tout l'univers du Ville Juif Underground. Voilà, alors je vais faire des brèves. Et je vais essayer d'être bref. Alors, lundi 30 janvier 2017, toujours la permanence juridique de soutien aux sans-papiers au 91 rue Montesquieu, Lyon 7, c'est à la Lutine. Voilà. En deuxième, donc, il y avait un vernissage pardon, qui avait lieu vendredi et j'ai oublié de l'annoncer la semaine dernière. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que j'avais pas l'info, donc c'est normal. Et ce qu'il y a de vachement bien, c'est que ça dure jusqu'au 25 février. Donc ça s'appelle Stonewall, mythe, origine et réception d'un mouvement populaire. C'est la bibliothèque du 7e à Jean Masset. Alors c'est deux rues d'Omer pour ceux qui connaissent dans le 7e. L'entrée est libre et gratuite, hein, donc il n'y a pas besoin de payer ni même d'adhérer à la bibliothèque. C'est dans le cadre de Mémoire minoritaire, qui est un cycle dédié à la co-construction d'une mémoire des minorités sexuelles à l'heure du numérique. Vous voyez, donc c'est l'idée de scanner, de garder des documents, tout ça. Et donc c'est à l'origine des marches des fiertés, il y a Stonewall. En juin 1969, une fulgurante émeute de prostituées, de travestis, de gays, de trans et de lesbiennes éclate à New York contre la répression policière. Cette flambée minoritaire, dans le sillage du mouvement pour les droits civiques et du Black Panther Party, est aujourd'hui célébrée comme l'acte de naissance des luttes homosexuelles et transgenres aux États-Unis. Donc c'est une exposition qui est conçue par le collectif lesbien lyonnais, l'association Chrysalide et l'association Rimbaud qui retrace les origines de ce soulèvement minoritaire en mettant en lumière ces figures de proue encore trop peu connues en France, Sylvia Rivera, Martha Shelley ou encore Barbara Gettings. Voilà. Et donc le vernissage, c'était le vendredi 27 janvier, mais ça dure donc jusqu'au samedi 25. Sinon, mardi 31 janvier et mercredi 1er février, alors là, ça va se passer à Oullins. Conte et pédagogie avec Suzy Platiel ou Placiel, je ne sais pas comment ça se prononce, à la médiathèque d'Oullins. Donc c'est 8 rue de la République à Oullins.
C'est juste à côté du métro.
Ouais, juste voilà. À côté. Vous sortez du métro, c'est. Ouais, tout à fait. Donc c'est des films, conférences et ateliers avec des conteurs et des enseignants à la médiathèque d'Oullins. Donc voilà. Donc mardi 31 à 19h, c'est la projection, conférence, débat autour du film donc de Suzy Platiel au pays du conte. Alors je vais vous faire la. Petit synopsis du film, et de la personne, pardon, ethnolinguiste et africaniste, Suzy Platiel explique dans son film ce qui l'a amené à travailler sur le conte, à comprendre sa fonction dans la société à tradition orale, en particulier chez les Sanan ou Sanon du Burkina Faso, et à intervenir dès les années 80 dans les écoles en France pour le diffuser comme outil d'éducation permettant de recréer le lien social. Elle insiste sur le fait que la maîtrise du langage oral et corporel est essentielle dans le développement de l'enfant, avant d'exiger de ce dernier qu'il lise et qu'il lise et qu'il écrive. Voilà. Et il y aura la présence aussi de Jean-Christophe Gary, qui est professeur de français au collège, et d'autres enseignants qui mettent en pratique l'heure du conte et qui démontrent que, pour les élèves, se mettre à raconter à leur tour, c'est partager, établir une relation avec l'autre, transmettre tout en développant leur capacité d'écoute et de concentration, et en apprenant un mode de raisonnement logique de type synthétique face à. Oh là, j'ai pété le mot qui est là. Synthétique parce que fondé sur le discours. Excusez-moi, je bafouille ce soir. Et le mercredi 1er février, un atelier sur le conte à l'école, rassemblant conteurs et enseignants, qui est ouvert à toutes et tous, mais en particulier aux enseignants. C'est ouvert à tous et toutes et tous les enseignants en priorité. Et c'est toujours à la médiathèque d'Oullins. Et c'est pour s'inscrire, s'il faut écrire à Elisabeth Calandry, @wanadou.fr. Elisabeth Calandry, tout est attaché avec un Y, je remettrai. Tout ça sur le blog, évidemment, pour que vous ayez les informations. Sinon, c'est sur rebellion.info. Voilà, c'est les deux trucs que j'avais notés pour ces trois trucs pour cette semaine. Est-ce que vous avez des trucs à ajouter, non ?
Non,
tout va bien.
Non, ça va ?
Non, ça va.
Ça va. Bon, pour les auditeurs et auditrices, qu'on en parlait hors antenne, mais du coup, ils ne nous entendent pas, nous allons recevoir normalement l'association Chems France dans l'émission, dans les 15 jours qui viennent. Voilà, c'était juste pour nous faire une première annonce.
Écoutez-nous, voilà. Ce sera sympa.
Bah oui, comme toujours. on va se quitter en musique. Alors, je vais remercier Aurélien d'abord, qui nous écoute pour nous avoir fait découvrir ce titre, et Jean-Yves pour nous l'avoir soufflé, oui, parce que quand même il n'est pas là mais il nous souffle des musiques, et c'est les Petites Nacelles avec Mon Six Coups. Je vous laisse écouter, c'est vachement bien, et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde,
des bisous,
passez une bonne semaine.
Au revoir.
Mais comme militant d'aucun parti et d'aucun maître,
là comme laborieuse, toutes ces chansons par la fenêtre.
Ré comme résigné, tes mots ne changeront pas le monde.
Sol comme solitaire, mais
si comme similaire à tant d'amis qui chantent la vie et ses méandres et ses soucis.
La rime aux abois pour ne pas gueuler n'importe quoi.
Régime famélique quand la feuille blanche nous fait la nique.
Solide comme une trique,
silencieuse panique. Je sors mon six coups, c'est décidé, je vais tirer. Accord réel à balle verbale, le torse bombé bien à la verticale. Je vais tirer dans tous les sens sur cette foule qui fait silence. À grands coups de millard et sale, simis, tous les coups sont permis. Mitoyen du monde, coupé en quatre sur la map monde.
Là, elle cogne aux portes de tout son flux, elle nous inonde.
Régente assassine, elle revient en force et signe sur notre sol apatride de ses six madrés perfides. Misérable époque où tout se compte, où tout se croque. La Bible à la main ou le Coran pour un lopin. Régression tragique quand la peur se la joue clanique. Solennelle bataille, sinistre muraille. Je sors mon six coups, c'est décidé, je vais tirer. Accord réel à balle verbale, le torse bombé bien à la verticale. Je vais tirer dans tous les sens sur cette foule qui fait silence. À grands coups de millard et sol, simi, tous les coups sont permis. Bémol, chanteur oui mais pas porte-parole.
Là comme la la la, à l'unisson sans farandole.
Ré comme résistant à la norme et au goût du sang.
Sol comme soleil brun.
Si comme si demain on avait misé sur la route, celle de nos peurs et de nos doutes. La fleur au pétoir en sifflotant un air anard. Prédiction interdite, en avant marche la musique. Seul pour tout avoir, les six cordes de ma guitare. Je sors mon six coups, c'est décidé, je vais tirer. Accord réel à balle verbale, le torse bombé bien à la verticale. Je vais tirer dans tous les sens sur cette foule qui fait silence. À grands coups de millard et sol, simi, tous les coups sont permis. 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 Tous les coups sont permis.